Mathieu Ricard, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec un père philosophe, Jean-François Revel, une mère peintre, Yann Le Toumelin, et un doctorat en biologie moléculaire, vous n'étiez pas forcément prédisposé à devenir moine bouddhiste. Alors, comment vous avez rencontré le bouddhisme ?
Oui, bonne question. En fait, j'étais élevé donc de façon purement laïque. D'ailleurs, mon père était professeur à Lille au lycée Fédère pendant un certain temps, professeur de philosophie. Mais à l'adolescence, je me suis intéressé à la spiritualité de façon purement par des lectures. J'avais lu plein de choses sur l'hindouisme, le soufisme. Il y avait peu de choses sur le bouddhisme tibétain, les mystiques chrétiens, etc. Mais j'étais lié à aucune tradition vivante. Et donc, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai eu l'occasion, la chance de voir en cours de montage des documentaires faits par mon ami Arnaud Desjardins, qui avait fait 4 documentaires d'une heure chacun sur les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste chinoise et qui s'étaient réfugiés sur les versants indiens de l'Himalaya ainsi qu'au Bhoutan. Et quand j'ai vu ça, notamment il y avait une séquence à la fin, on voyait défiler silencieusement pendant 5 minutes une vingtaine de visages de maîtres, d'ermites, à la fois très dissemblables physiquement, il y en avait des qui étaient très ascétiques, d'autres qui étaient qui avaient un visage avec un grand nez, mais il y avait une unité dans une qualité humaine que je n'avais pas rencontrée jusqu'alors. Donc c'est comme s'il y avait 20 Socrate, 20 Saint François d'Assise, ici et maintenant. Et je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Donc, j'ai demandé des conseils à Arnaud, où aller, comment aller. Et je me suis rendu. Je parlais à peine anglais à l'époque. J'avais appris, mon père m'avait astucieusement conseillé d'apprendre le latin, le grec et l'allemand, ce qui ne m'a pas beaucoup servi par la suite. Et voilà, donc j'ai rencontré plusieurs de ces grands maîtres, dont un qui m'a particulièrement inspiré et impressionné, auprès de qui j'ai passé 3 semaines. Assis tranquille en sa présence, sans savoir trop quoi faire. J'essayais de méditer, mais je ne savais pas en quoi ça consistait. Et puis, c'est quand je suis rentré en France, au bout de 3 mois de voyage en Orient, que j'ai réalisé à quel point ces rencontres avaient eu un impact et transformé mes visions de l'existence, dans la mesure où, jusqu'alors, grâce à mon père, donc, chez nous venaient toutes sortes d'écrivains, de philosophes, d'artistes à cause de ma mère. J'avais un oncle, Jacques-Yves Le Toumelin, qui était un grand explorateur, un navigateur solitaire. Donc il y avait des gens tout à fait excentriques qui passaient chez nous. Moi-même, je m'intéressais à la musique. J'ai eu la chance de rencontrer Stravinsky quand j'avais 16 ans. Moi, à l'Institut Pasteur, donc j'étais chez François Jacob et Monod. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui avaient tout d'un grand génie. Mais il n'y avait pas de corrélation nécessaire entre leur génie et des qualités humaines. Il y avait des gens formidables, mais il y a aussi des gens qui étaient un peu plus difficiles. Et il n'y avait pas de lien entre... Donc j'avais souvent envie d'acquérir leur talent particulier, mais pas nécessairement devenir comme eux, sauf pour certaines personnes sans doute. Par contre, quand j'ai rencontré ces sages, c'était tout le contraire. Je ne m'intéressais pas trop à ce qu'ils savaient, dans le détail, disons. Mais par contre, leur personne, leur qualité humaine m'inspirait profondément. Et je disais, si je pouvais devenir ne serait-ce qu'un petit peu ce qu'ils sont, ça donnerait un sens à mon existence. Donc ça, c'était une perspective très différente. Et donc j'ai fait l'aller-retour pendant 5-6 ans. Et puis au bout de 6 ans, après avoir fini ma thèse, j'ai fait un post-doc dans l'Himalaya depuis 40 ans. Et je m'en retrouve fort bien.
Voilà comment tout cela a commencé. Alors si on devait résumer le bouddhisme en quelques mots, que pourrait-on en dire ?
Ah, bonne question. On me l'a posé une fois après que j'ai fait 7 ans de retraite à Darjeeling et j'étais muet parce que c'était quelque chose qui était très intérieur et je ne savais pas l'exprimer par des mots. Je crois qu'on peut dire que c'est l'union de la connaissance et de la compassion. La compassion, ce n'est pas la pitié, c'est le souhait profond que tous les êtres soient heureux et trouvent les causes du bonheur et soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc la sagesse ou la connaissance est nécessaire, évidemment, une meilleure compréhension de la réalité, meilleure compréhension de la façon dont fonctionne l'esprit, des mécanismes du bonheur et de la souffrance, mais avec un immense amour altruiste. Donc ces deux choses-là, donc la connaissance est aussi la compréhension de l'interdépendance des phénomènes, donc tout ce qui est lié à une plus juste compréhension des choses. Donc ça, ces deux choses-là représentent le fondement du bouddhisme.
Et tout cela nourri par l'expérience ?
Ah oui, c'est simplement accumuler une pile d'ordonnances et les laisser sur l'oreiller, ça n'aide pas à grand-chose. Le bouddhisme est une approche thérapeutique. Le Bouddha est comme un thérapeute, un médecin, pour nous libérer de la souffrance. Donc toute cette connaissance vise à se libérer de l'ignorance et de la souffrance.
Alors pourquoi vous nous incitez à méditer? Est-ce que c'est pour résoudre nos problèmes d'occidentaux stressés ou pour aller beaucoup plus loin dans notre recherche intérieure?
Non, vous savez, je crois qu'il faut démystifier la méditation, parce que si on pense justement que c'est une sorte de petite recette, une sorte de supplément vitaminé de l'âme pour faire face à notre stress, c'est vraiment avoir une piètre idée de la méditation. Les racines sanskrites et tibétaines du mot qu'on traduit par méditation veulent dire cultiver, se familiariser. Avec quoi? Avec une nouvelle manière d'être. Donc c'est vraiment, d'une part, une transformation profonde, mais surtout, et encore plus, l'actualisation d'un potentiel que nous avons tous, mais que nous laissons complètement en friche. Donc nous sous-estimons considérablement le pouvoir de transformation de l'esprit. Nous ne nous rendons pas compte que certes nous avons des pensées d'amour altruiste, mais elles passent, elles sont remplacées par d'autres pensées. Et presque jamais nous nous arrêtons ou nous prenons le temps de les cultiver, de les nourrir de sorte qu'elles deviennent vraiment une partie importante de ce que nous sommes. Donc c'est cultiver des qualités humaines fondamentales. C'est curieux d'ailleurs qu'on y pense si peu, parce qu'on est prêt à aller à l'école, à passer 15 ans, à avoir une formation professionnelle, à apprendre à jouer aux échecs, au tennis, du piano, etc. Et par une sorte de mystère, on s'imaginerait que ces qualités humaines si précieuses viendraient simplement parce qu'on souhaite. Alors ce n'est pas le cas.
Donc finalement, méditer, c'est apprendre à vivre?
Oui, apprendre à vivre de façon qui a un sens, apprendre à vivre pour soi et pour les autres, et donner un sens à cette existence qui est si précieuse, afin, comme on dit dans une image bouddhiste, qu'on ne revienne pas de l'île au trésor les mains vides.
Que nous disent la recherche scientifique et les neurosciences sur les bienfaits de la méditation?
Il y a une dizaine d'années maintenant, donc, un programme de recherche a été entrepris pour évaluer les effets à court et à long terme de l'entraînement de l'esprit. C'est peut-être un mot plus juste pour la méditation. Et on a commencé par des méditants expérimentés, donc qui avaient fait entre 10 000 et 50 000 heures de méditation, et dans les meilleurs labos de neurosciences au monde. Parce qu'il y a 20 ans, il y avait toutes sortes de recherches sur la méditation qui étaient très fumeuses et qui donc a été mis à l'écart de la recherche scientifique parce que ça n'avait aucune valeur. En revanche, maintenant, ce sont les meilleurs labos aux États-Unis et en Europe qui s'intéressent à cela. Richard Davidson à Madison, à Princeton, à Harvard, à Berkeley, à Maastricht, à Zurich. Et ces recherches ont maintenant été publiées dans des revues scientifiques prestigieuses et montrent très clairement que l'entraînement de l'esprit a un profond impact sur la fonctionnalité du cerveau, sur ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire le fait que le cerveau change à la suite d'un entraînement. On peut cultiver l'attention, on peut cultiver l'amour altruiste, on peut cultiver l'équilibre émotionnel, et ce d'une façon majeure. C'est-à-dire que les différences qu'on observe chez des méditants entraînés est considérable par rapport à des sujets novices. Et peut-être de façon plus intéressante pour le commun des mortels, disons, c'est que il n'est pas nécessaire de faire 50 000 heures de méditation. Pour vous dire, un pianiste de concert a dû faire 10 000 heures le jour de son premier concert. Mais 3 mois à raison de 20 minutes par jour donnent déjà des résultats, notamment cliniques très importants, un renforcement du système immunitaire qui peut aller jusqu'à 20 à 30%, diminution de la tension artérielle, etc. Diminution de 30 à 40% du risque de rechute dans des dépressions graves pour des personnes qui en ont eu plus de 2 dépressions. Donc, il y a maintenant une pléthore de recherches et de publications scientifiques qui croient de façon exponentielle sur les applications cliniques de la méditation et principalement ce qu'on appelle la méditation sur la pleine conscience. Il y a une technique qui a maintenant été développée depuis 30 ans aux États-Unis dans 200 hôpitaux par un ami qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui maintenant commence à devenir en France, qui s'appelle la réduction du stress par la pleine conscience et qui est extrêmement bénéfique pour des soins de santé.
Il n'y a que des bonnes choses, donc, pour méditer.
Oui, il n'y a pas d'effet secondaire.
Alors, est-ce que la méditation et la prière sont deux mots différents pour désigner la même chose?
Tout dépend ce qu'on entend par prière, bien sûr. Le bouddhisme n'est pas une spiritualité théiste. Donc, on prie d'un certain point de vue son maître spirituel et le Bouddha, mais plus comme une source d'inspiration, un hommage à la connaissance, un hommage à la liberté intérieure, un hommage à la compassion infinie, mais on ne demande pas quelque chose comme une récompense. Ou... Donc, je crois que le mot méditation, dans le sens de se familiariser soit avec une nouvelle qualité, soit se familiariser avec une meilleure compréhension de la nature des choses et une meilleure compréhension de la nature de la conscience, est probablement plus juste. Mais il peut y avoir évidemment une aspiration profonde à développer les qualités, par exemple, qu'on a trouvées chez un maître spirituel. Donc il y a un aspect de dévotion, mais qui est une dévotion d'enthousiasme respectueux et d'immense reconnaissance à l'égard de l'aide que vous apporte un maître spirituel ou le Bouddha par ses enseignements.
Alors vous êtes un grand défenseur de la culture tibétaine. Est-ce que cette culture a une chance de survivre demain dans une Chine matérialiste ?
Bah, elle a une chance de survie. Elle survit déjà d'abord en dehors de la Chine, puisque le gouvernement tibétain en exil a toujours, depuis le début, consacré 30% de son budget à l'éducation. C'est probablement unique au monde. Ce n'est pas évidemment un gouvernement qui a beaucoup de budget, mais enfin néanmoins, il a choisi dès le début de donner l'accent principal sur l'éducation. Donc on peut dire qu'en exil, l'essence de la culture tibétaine a été préservée. Mais cette population en exil ne représente qu'un 60e de la population. Donc l'avenir dépendra évidemment de ce qui se passe à l'intérieur du Tibet. Alors après la mort de Mao Tse-tung, il y a eu une renaissance, il ne faut pas le nier. Beaucoup de monastères se sont reconstruits, des collèges philosophiques et des centres de retraite se sont rouverts. Des moines ont de nouveau été admis dans les monastères. Et puis, il y a eu toujours des hauts et des bas. L'an dernier, notamment, il y a eu une répression beaucoup plus brutale. Il y a eu environ 300-400 morts. Une dizaine de milliers de personnes ont été arrêtées, dont 1000 sont toujours... on n'a aucune idée de ce qui leur arrive. Et de nouveau, le gouvernement chinois a commencé à essayer de vider des monastères qui avaient 100-200 moines. Maintenant, ne peuvent plus en avoir qu'une vingtaine. Donc maintenant, c'est une période noire à nouveau. Espérons que ça ne durera pas trop longtemps, mais en ce moment, l'oppression et la répression est extrêmement lourde et sévère.
Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Ben, si on n'est pas optimiste, on n'arrive à rien. Je veux dire, un pessimiste s'assied sur son derrière en pensant que tout va aller mal, qu'il n'y a aucun espoir. Donc l'optimiste entreprend 100 projets en pensant que ça va réussir, il en réussit 10. Le pessimiste en entreprend 5 en disant que ça va échouer, il n'en réussit aucun généralement.
Alors, quelles sont les actions que vous entreprenez avec votre association Karuna Shenzhen ?
Alors, si vous voulez, quand j'ai eu l'occasion de faire ce dialogue avec mon père, le moine et le philosophe, je vivais avec 30-40 euros par mois, tranquillement, dans mon ermitage à Darjeeling. Personne n'avait la moindre idée de ce que je fabriquais. Et de jour au lendemain, j'ai vu des ressources venir vers moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais m'acheter une piscine ou une Ferrari. Donc, tout de suite, j'ai modifié le contrat afin que les droits d'auteur soient versés à une fondation. Depuis, ça a pris le nom de Karuna, ce qui veut dire compassion. Karuna est cette chaîne qui est le nom du monastère. Maintenant, nous avons un très beau site internet fait par un ami à Hong Kong. Et nous avons développé depuis l'an 2000, 40 projets, donc des projets laïques, sur l'éducation, la santé, des personnes âgées, des orphelins. Donc nous donnons 100 000 soins médicaux par an dans 13 cliniques au Tibet, au Népal et en Inde. Nous avons près de 15 000 enfants dans les écoles que nous avons construites pour eux. Nous avons construit des ponts suspendus, dont un pont sur le Yangtze qui prend sa source au Tibet, comme tous les grands fleuves de l'Asie. Il s'appelle le Jichu au Tibet. Et donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est la raison pour laquelle je suis encore en France ces jours-ci, parce que sinon je resterais très volontiers dans mon ermitage. J'ai 63 ans et je n'ai qu'une envie, c'est de rester tranquille. Sauf que je n'ai pas le cœur à laisser ces projets de côté. Il faut trouver du soutien, des fonds, des volontaires. Et donc c'est encore pour ça que je cours par le monde un peu comme un dératé. Et donc voilà, ce sont des très beaux projets. Pour moi, ça a été un grand privilège, une grande joie de pouvoir essayer de mettre un peu la compassion sur laquelle j'ai essayé de méditer, de la mettre en action avec un groupe de volontaires. Nous avons réussi à maintenir 2% de frais de fonctionnement, ce qui dans le domaine des ONG est assez rare. Nous en sommes très fiers et très heureux parce que nous avons le sentiment que chaque don va vraiment là où il est nécessaire et utile.
Il y a des Occidentaux qui vous suivent sur ce projet là-bas.
Ah ben oui, nous avons beaucoup de volontaires occidentaux. Par exemple, en ce moment, on cherche un directeur pour une nouvelle clinique qu'on fait en Inde, dans le Bihar, près de Bodh Gaya. Et puis aussi sur le terrain, au Tibet notamment, nous avons tout un réseau d'amis tibétains que l'on connaît depuis 25 ans, qui donne une manière assez unique de mener ces projets, puisque nous parlons la langue, nous avons une sorte de complicité au niveau des villages et des nomades. Et donc, on a une assise beaucoup plus profonde que beaucoup d'ONG qui sont parachutées comme ça dans un terrain qu'ils ne connaissent pas. Et nous, c'est vrai qu'on fait partie intégrante de la culture.
Oui, ça aide effectivement. Mathieu Ricard, merci.